Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine, Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à tous à l'écoute de Radio Présence pour ce premier rendez-vous avec les musiciens programmés au Festival de Rocamadour 2025. Il va y en avoir un chaque jour en début d'après-midi tout au long de cette 20e édition jusqu'au 26 août. C'est l'ensemble belge Vox Luminis qui donne le concert d'ouverture ce vendredi 15 à 21h à la Basilique Saint-Sauveur. Une seule pièce au programme, mais c'est un sacré morceau puisqu'il s'agit de la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach, chef-d'œuvre absolu de la musique savante occidentale. Nous allons en parler de ça et de bien d'autres choses avec l'invité de cette première émission, Lionel Meunier, fondateur et directeur artistique de Vox Luminis. Bonjour Lionel Meunier et merci d'avoir accepté cette interview pour nos auditeurs.
Bonjour à tous.
Je précise que vous êtes chanteur, vous dirigez votre ensemble depuis le pupitre des basses, vous êtes un grand spécialiste du répertoire baroque et vous faites partie des artistes qui reviennent cette année au Festival de Rocamadour. Vous y aviez déjà participé avec Vox Luminis lors des éditions 2017 et 2018. C'était pour la première fois avec un programme intitulé « Funérailles pour un prince et une reine ». Et pour la seconde, en 2018, c'était déjà avec la messe en si mineur de Bach. Quels souvenirs gardez-vous de ces concerts et de la découverte de la basilique ?
Alors, la découverte de la basilique, c'est quelque chose d'assez énorme, j'allais dire, pour n'importe qui, mais c'est toujours spécial pour moi puisque même si mon ensemble est belge, je suis français, bourguignon de naissance et je resterai bourguignon. Et je suis toujours très fier de montrer certains endroits spéciaux en fait aux membres de mon ensemble puisqu'on à l'heure actuelle on tourne en fait dans le monde entier. Et je pense que je l'avais vu quand j'étais enfant, que mes parents m'avaient emmené, mais je m'en souvenais pas vraiment. La première chose dont je me souviens, c'est que c'était moins grand que ce que je m'attendais. C'est peut-être une chose bizarre, mais c'est quelque chose qui est une influence pour la musique qu'on va y donner, puisqu'il y a une certaine proximité, en fait, avec tous les gens qui sont dans le public. Et évidemment, c'est tout le village et toute la beauté de la nature autour. Et ça, je m'en souviens bien. Et c'est de voir mes collègues, en fait, impressionnés. Il y a une sorte, c'est peut-être bête à dire, mais une sorte de fierté pour son pays et les possibilités touristiques du pays. Donc voilà, c'était un grand moment. Et le fait, donc, vous parliez des funérailles princière et royale, qui était le premier programme. On venait avec la pièce de Heinrich Schütz, les Musikalische Requiem. C'était les premières funérailles musicales écrites en langue allemande, les premiers requiem allemands. C'est la pièce qui nous a fait décoller un peu partout dans le monde. Et donc, on était venu avec cette pièce-là. Donc, c'était quelque chose d'assez grandiose et dont on se souvient beaucoup. On était juste une douzaine de chanteurs et un orgue. Et c'était un grand moment. Aussi de pouvoir répéter. C'est une des chances que l'on a, le festival arrive à nous organiser de répéter la veille, en général quelques heures, dans ce lieu, rien que pour nous, avec peu de gens ou personne, et ceci c'est un grand moment. C'est une des chances des musiciens, de quelquefois avoir accès à ces lieux, rien que pour eux, et de pouvoir chanter. Voilà pour les souvenirs. Et j'allais dire aussi, si les organisateurs nous ont réinvités pour donner la même pièce, c'est que ça a laissé un grand souvenir aux gens, et au festival, et donc c'est la même chose pour nous, et donc on a hâte d'avoir une deuxième chance avec la même pièce.
Je vous confirme effectivement que votre prestation en 2018 avec la messe en si avait laissé un grand souvenir et que tout le monde est impatient de vous réentendre. Alors vous avez fondé Vox Luminis en 2004 et à l'origine c'était une formation exclusivement vocale. Ce n'est qu'à partir de 2014 que vous y avez ajouté un ensemble instrumental. Quel était le répertoire que vous vouliez explorer au départ lorsque vous avez créé l'ensemble vocal ?
Alors, ce n'était pas un ensemble uniquement vocal dès le départ, malgré son nom, Vox Luminis. Donc il y a toujours eu un continuo. Un continuo, c'est un ensemble qui est en général constitué d'un orgue, d'un violonnet ou d'un violoncelle, une viole de gambe, basse de viol, comme on veut, d'un luth, donc de 3-4 instruments. Et en fait, dès le troisième projet, donc au bout d'un an et demi, il y avait déjà deux violons qui jouaient avec nous. Donc c'était un ensemble de musique ancienne, en fait, dès le départ, mais principalement basé sur la voix, effectivement. Ce qui s'est passé, c'est que nous alternions au début. Alors, nous avions beaucoup moins de projets, c'est-à-dire maintenant, en un mois, nous faisons plus que nous faisions en un an à l'époque. Donc, il y avait une dizaine de chanteurs, un petit continuo et quelquefois deux violons, peut-être un alto, qui se joignaient à nous. Donc, on se concentrait sur le répertoire, notamment du XVIIe siècle, donc de 1600 à 1700, qui ne demandait pas forcément d'orchestre, et on se plaisait beaucoup à faire ceci. Par contre, cela nous coupait pour un certain répertoire, notamment ce qu'on appelle le haut baroque, c'est-à-dire la première moitié du XVIIIe siècle. Et au fur et à mesure, les gens me demandaient, Lionel, tu n'as pas envie d'ajouter quand même un orchestre ou tu as quelques-uns de tes instruments que tu penses qu'il n'aimerait pas faire un peu plus de répertoire un peu plus tardif. Et vous n'avez pas envie et on n'adore pas. Et donc, l'idée a germé, je vais dire, jusqu'aux années 2012, je ne pensais pas avoir un orchestre. Et c'est en fait une demande en 2012 déjà qui me fait germer, c'est-à-dire le festival de Saint-Michel-en-Thiérache, qui est un festival près de la Belgique, en fait vraiment près de la frontière, mais en France, me dit est-ce que vous ne pourriez pas nous donner le Dixit Dominus de Handel? Et donc là, je suis venu avec un instrument par partie, donc quelque chose d'un peu hybride, donc avec seulement deux violons, deux altos, un violoncelle, une contrebasse et un orgue. Ça s'est très bien passé, 10 chanteurs, et là, il me regarde, il me dit l'an prochain, et après le succès du concert, je veux le Magnificat de Bach. Donc ce fut en 2014, et c'est là qu'on a ajouté un orchestre, effectivement. Le succès aidant, on l'a gardé, et on a essayé de bâtir quelque chose à la même image que nous, c'est-à-dire un ensemble assez stable. Donc le Concertmeister, c'est-à-dire le premier violon, qui a un rôle très important dans notre cas, puisque quand vous n'avez pas un chef qui dirige au sens 20e siècle, 21e siècle du terme, c'est-à-dire qu'une baguette est devant l'ensemble, mais moi qui suis à l'intérieur, le concertmeister a un rôle très important et donc c'est le même depuis maintenant 9 ans et demi, donc depuis le deuxième projet. Il a raté 2 jours de projet en 10 ans. Donc vous voyez, on a bâti un ensemble très stable donc dans l'orchestre, avec des petits nouveaux qui viennent de temps en temps. Et donc, je pense que la chose la plus importante, c'est qu'on a bâti un orchestre et on a rassemblé des instrumentistes qui principalement jouent avec des chanteurs. Ça peut paraître évident, mais il y a forcément 2 manières de créer un orchestre, c'est-à-dire un orchestre qui jouerait principalement de la musique instrumentale, et il y en a énormément et de la très belle, et qui occasionnellement pourrait être accompagné avec des chanteurs, accompagner les chanteurs, créer une osmose, ou là ici, ça a été plutôt un orchestre créé, j'allais dire au service des chanteurs, c'est peut-être un peu ça, mais c'est vraiment que des gens qui aiment jouer avec les chanteurs et qui, depuis seulement décembre dernier, ont joué pendant 15 minutes tout seul sans nous sur scène. Donc voilà, au bout de 10 ans, on leur a fait ce cadeau. Et c'est une expérience fascinante de voir à quel point nous, les chanteurs, pouvons inspirer les instrumentistes dans la manière dont ils jouent. J'allais dire plus vocal, mais aussi inversement, avec des instrumentistes qui ont envie vraiment de jouer avec nous. Ils peuvent nous apporter aussi certaines choses dans le phrasé, etc., dans la manière plus instrumentale quelquefois que nous devons chanter. Et moi qui suis instrumentiste au départ, puisque j'ai découvert la musique par la trompette, et puis je suis flûtiste à bec professionnel, ça me permet d'allier toutes mes passions. Et voilà, on est très heureux et c'est parti pour continuer encore pour un moment, avec ces deux phalanges ensemble.
Oui, alors il y a eu une étape importante aussi pour votre ensemble, c'est que Vox Luminis a participé plusieurs années de suite à l'Académie Bach d'Arques-la-Bataille en Normandie, et c'est là que
Oui.
vous avez chanté pour la première fois la messe en si mineur en 2017. On va en parler évidemment en détail de cette messe en si mineur, mais avant cela, nous allons en écouter un extrait, interprété bien sûr par l'ensemble Vox Luminis sous votre direction, Lionel Meunier. C'est le chœur Et Trésor Exit.
Thank you.
Très orexite, un des plus beaux chœurs de la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach, interprété par l'ensemble Vox Luminis sous la direction de Lionel Meunier. C'est donc cette œuvre colossale que vous allez donner pour le concert d'ouverture du Festival de Rocamadour 2025 ce soir à 21h à la Basilique Saint-Sauveur. Alors parler de la messe en si de Bach, c'est un peu être au pied de la montagne. Qu'est-ce qui fait selon vous que c'est un des grands chefs-d'œuvre composés par Bach et un des sommets de la musique savante occidentale?
Mais la première réponse, qui peut être très simple, c'est qu'on nous le dit dès le départ. C'est-à-dire, quand on ne l'a pas chanté, encore une fois, là je parle pour n'importe quel de nous, des chanteurs, des musiciens, tout le monde nous dit, ah, la messe en si. D'ailleurs, c'est quelque chose d'intéressant, c'est en fait une messe en si, c'est pas la seule
Oui,
qui existe.
c'est vrai, oui.
C'est intéressant, si on dit la messe en si,
Ouais.
tout le monde sait de laquelle on parle. Donc oui, vous parliez d'une montagne, c'est très clairement considéré comme, au moins c'est dans l'Himalaya, si c'est pas le mont Everest, quelque part. Et pour moi, hein, chacun, je pense, a ses réponses et chacun d'entre nous, notamment les chefs, on lit énormément. J'ai lu évidemment tout ce que Gilles Cantagrel a pu écrire dessus
Oui.
ou beaucoup d'autres gens. Alors moi, une des choses qui m'intéresse, qui me fascine le plus, c'est en fait, j'ai remarqué pour certaines de ces pièces, c'est le mystère qui les entoure, qui les rend encore plus fascinantes. Voilà, ben, Jean-Sébastien Bach qui était protestant et le fait que les messes protestantes étaient des messes brèves, c'est-à-dire où il y avait seulement le Kyrie et le Gloria, ce qui était écrit donc bien avant, donc le Kyrie et le Gloria de la messe en si, de Bach ont été écrits en 1733, donc bien avant qu'elle soit complétée en 1748-49. Donc on se demande, et personne n'a la réponse,
Non, ça reste
il y a d'ailleurs
mystérieux,
aussi,
hein.
on se demande pourquoi il aurait écrit cette messe catholique, certains le voient comme un testament, comme...
Oui.
On ne sait pas, mais je pense que c'est ce qui fait partie des choses incroyables. Une des autres choses qui est fascinante, c'est qu'elle n'a pas été donnée du vivant de Bach de
Oui, parce qu'il
manière
est vraiment au soir de
complète.
sa vie, là, hein, quand il la
Voilà,
termine.
et donc lui a entendu donc la messe brève, c'est-à-dire donc la première partie. Par contre, la partie de Credo, il ne l'a pas entendue. On le sait aussi puisqu'il n'y a pas de correction de choses sur les manuscrits qui nous sont restés. Donc tout ça, c'est des choses aussi pour nous fascinantes, c'est-à-dire quand on prend une nouvelle partition, alors. Pourquoi le mont Everest? Pourquoi un chef-d'œuvre universel? Ben, il est à la fin de sa vie. Il reprend énormément de choses qu'il a déjà écrites, certains de ses airs préférés, c'est-à-dire quand on entend l'Agnus Dei, voilà, qui est peut-être l'air que tout le monde attend à la fin de la messe en si, et qui est incroyable, ben, cet air a déjà été utilisé deux fois, donc dans l'oratorio de l'Ascension notamment. Donc, on a l'impression de quelqu'un qui a repris son meilleur, j'allais dire, qui réécrit certaines choses, évidemment, en plus. Et qui n'a plus à prouver. C'est-à-dire, un musicien comme lui, donc, quand il écrivait ses cantates, ou même la messe brève, en général, c'était soit des commandes, soit aussi pour essayer d'obtenir un meilleur poste, ce qui est le cas d'ailleurs de la messe brève en si, c'est pour impressionner un prince.
Frédéric Auguste II
Voilà,
à Dresde.
exactement. Et quand il écrit donc cette messe en si, c'est peut-être pour lui-même également. Et donc, quand je dis pas impressionné, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui essaye, oui, d'obtenir une augmentation ou que sais-je, puisque on en parle peu, mais il aimait souvent à demander une augmentation. Et donc, c'est quelque chose, moi, qui m'impressionne, c'est-à-dire on a l'impression que tout est à la bonne place, on ne changerait rien. Il y a une sorte d'évidence dans la difficulté. Alors, pourquoi je parle de difficulté? C'est-à-dire vocalement, pour la voix, c'est vraiment une œuvre redoutable, par sa tessiture, par les pièces lentes, mais aussi les pièces rapides avec des vocalises dans tous les sens, les tempos qui peuvent être rapides par moment et à sa demande, les vivaces et les choses comme ça, allegro sont écrits sur la partition. Pour les instruments, c'est aussi redoutable, certains aussi airs avec des parties solistes, par exemple l'air avec le cor, donc c'est un cor de chasse, vous voyez, pas de piston, rien du tout, donc c'est vraiment naturel. On fait tout ça avec les lèvres en gros, et donc c'est où il n'y a qu'une seule pièce à jouer, les parties de la partie trompette, la partie de première trompette est vraiment redoutable. Donc c'est redoutable pour tout le monde et à la fois tout le monde a envie de la redonner à chaque fois qu'on la donne. Chaque mouvement est une merveille et l'ensemble au complet est une merveille. Il n'y a pas un endroit qu'on changerait, mais c'est aussi la longueur. C'est-à-dire elle fait près de 2 heures
Oui,
au total.
comme la Passion selon saint Jean.
Oui, ce qui en fait un monument aussi d'endurance,
Un marathon un peu quand même, hein, ouais.
un marathon, il y a énormément à chanter, et à la différence de la Saint-Jean, puisque de la Passion selon Saint-Jean, puisqu'on en parlait, il y a notamment l'évangéliste qui prend une bonne partie et donc les chanteurs se reposent.
Tandis que
Là,
là,
ici,
ouais, oui,
on chante
ouais,
énormément.
c'est quasi
Et dans la
non-stop.
gastronomie que nous donnons à Rocamadour, c'est dans des effectifs, alors je ne vais pas rentrer dans le débat, mais historique, c'est-à-dire donc avec deux violons par partie, un seul alto, un seul violoncelle et 10 chanteurs uniquement. Les solistes chantent les chœurs également. Donc on est vraiment au plus près de ce qui pouvait se faire, mais aussi au plus près de nos limites. Après, c'est à nous de travailler notre voix et de se connaître. Le fait que l'ensemble se connaît et la donne depuis tellement d'années maintenant fait aussi que cela facilite les choses. Mais moi, elle me touche, pour finir, puisque vous demandez des détails, je crois que c'est aussi par la mixité des deux styles, c'est-à-dire le style plus ancien baroque et ce qu'on appelle le style antico, le style ancien, avec notamment des fugues et tout ce contrepoint, cette harmonie qui pourrait venir d'une musique plus ancienne, qui vient de l'inspiration de la musique du XVIe siècle ou du XVe. Et c'est la musique, moi, pour laquelle j'ai créé l'ensemble au départ, c'est-à-dire la musique du XVIIe siècle, et j'ai l'impression qu'on a tout dedans. Il n'y a rien qui me manque. Et on me demande souvent, j'ai pas envie de l'enregistrer, parce que c'est pour moi aussi une pièce dont on change des choses à chaque fois. À
Oui.
chaque fois, on en reparle entre nous, on évolue. Et donc, c'est vraiment une pièce que j'ai seulement, alors c'est un luxe que l'on a de pouvoir la donner
Généralement en
régulièrement,
concert, oui, vu
mais
la
j'ai
durée.
seulement envie de donner en concert parce que je la trouve magique par l'acoustique dans laquelle on la donne, la réaction du public, ce qui se passe sur le moment. Et quelque part, j'ai pas envie de graver une version unique parce qu'elle change à chaque fois dans nos têtes. Et voilà. Et cette pièce est magique et le mystère qui l'entoure, pour moi,
Doit
ne cessera
demeurer.
jamais. Et voilà. Oui. Et doit demeurer quelque part. C'est ce qui en fait la magie.
Oui. Alors c'est le moment d'écouter un second extrait de cette messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach. L'ensemble Vox Luminis chante ici le chœur Hosanna in Excelsis. Hosanna in Excelsis, autre très beau chœur de la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach, interprété par l'ensemble Vox Luminis, dirigé par Lionel Meunier. Alors pour terminer, vous nous avez dit que vous n'enregistrerez jamais la messe en si. que le mystère demeure. Mais en revanche, je suis certain que vous avez des projets d'enregistrement à venir, parce que depuis que vous avez créé Vox Luminis, vous avez souvent enregistré.
Oui, on a énormément enregistré. On vient d'une génération, alors j'allais parler comme un ancien, même si je suis au début de la quarantaine, où l'enregistrement d'un CD pouvait changer la trajectoire ou la vie d'un ensemble. Donc, dans notre cas, c'est vraiment la signature avec le label Richard Carr dans le groupe Aotir qui a changé notre vie. Donc on a, avec deux ou trois enregistrements, notre renommée s'est faite, on a remporté les plus grands prix. Et donc à partir de là, on a commencé à enregistrer beaucoup. Les ventes suivaient, je l'ai dit, etc. Alors on a ralenti le rythme, même si les gens ne vont s'en rendre compte qu'à partir de cette année. Cela dit, nous avons enregistré quelques pièces de la famille Bach. Il y aura un coffret qui va sortir l'an prochain, alors avec d'autres ensembles, mais de toute la musique, sans exception, écrite par les ancêtres de Jean-Sébastien Bach. Donc ce sera, je crois, 7 CD. Et la moitié sera faite par Vox Luminis. Donc ça, c'est un gros projet qui va sortir et qui est pour moi intéressant, puisque ça n'avait jamais été fait. Notre prochain enregistrement sera consacré à Roland de Lassus, donc qui est un musicien né en Wallonie, à Mons, ce qui est important aussi. On doit essayer de faire revivre le patrimoine de l'endroit où on est basé. Et là, c'est aussi une réflexion sur que enregistrer de nos jours, puisqu'il y a énormément de choses qui ont été enregistrées maintes fois. Et donc, nous allons enregistrer le Requiem à 5 voix, qui est moins connu de Roland de Lassus, qui a été enregistré seulement 2 fois dans les 50 dernières années, qui est très très beau, qu'on a donné pour notre 500e concert, qui était il y a quelques années. Et donc ça me tenait vraiment à cœur. Et puis on a retrouvé, là quand je dis on a, c'est un éditeur, c'est Carus, en Allemagne, au monastère de Augsbourg, on a retrouvé une version du Requiem à 4 voix de Roland de Lassus, beaucoup plus grave, une quinte plus grave, donc avec des sonorités vraiment assez incroyables. 3 parties de basse et seulement une partie de ténor, et qui n'a jamais été enregistrée, quasiment jamais donnée, peut-être jamais donnée en concert. Et donc ça, on va enregistrer, où il y a aussi la séquence, qu'on appelle la séquence, c'est-à-dire le moment de Dies Irae qui avait été perdu et qui a été retrouvé. Donc ça, c'est un projet vraiment d'enregistrement qui m'intéresse. Je ne dis pas que nous n'allons pas enregistrer. Alors, il faut jamais dire jamais, peut-être pour la maison aussi, peut-être qu'un jour on va me convaincre, mais j'en doute. On a d'autres idées. On a un espoir, c'est d'enregistrer de la musique inédite de Telemann, qui est un compositeur donc allemand.
Extrêmement prolifique, époque. Contemporain de Jean-Sébastien Bach.
Qui, on ne le sait pas assez, était le favori. C'était quand Jean-Sébastien Bach a obtenu son poste à Leipzig. Il était seulement le choix numéro 3. Oui. Telemann était le choix numéro 1. Et donc, je suis en train, avec l'aide du centre Telemann à Magdebourg, nous sommes en train de travailler sur énormément de cantates inédites, puisqu'il en a, écrit énormément, et notamment certaines écrites en Thuringe. Et donc, on aimerait les enregistrer. J'allais dire que j'allais plutôt m'orienter pour le futur sur des enregistrements de choses qui n'ont jamais été enregistrées ou très rarement. C'est pour cela que pour le dernier enregistrement qu'on a fait de Jean-Sébastien Bach, ça a été l'oratorio de l'Ascension, qui est l'oratorio le moins enregistré de Jean-Sébastien Bach. C'est ça qui m'intéressait. Donc voilà, de la musique a cappella, peut-être quelque chose avec orchestre, on verra. Mais évidemment, l'économie d'enregistrement est plus difficile de nos jours, alors qu'il n'y a jamais eu autant d'enregistrements qui sortent. Donc nous n'allons pas arrêter d'enregistrer, que les gens ne s'inquiètent pas. Mais il y a très clairement une réflexion en ce moment chez nous, chez Vox Luminis, savoir ce qui mérite, entre guillemets, d'être enregistré et d'attirer l'attention, et donc des projets originaux, notamment un des derniers qui est sorti, qui nous tenait à cœur. C'était recréer un requiem allemand baroque en essayant de retrouver les textes que Johannes Brahms avait utilisés au 19e siècle et les trouver par des compositeurs écrits au 17e siècle, et notamment des pièces inédites. Donc j'allais dire, il y a des projets originaux comme ça qui nous tiennent à cœur. Et qui sait, peut-être d'autres choses. En rêve, il y a pour moi le Speminalium, vous voyez, à 40 voix de Thomas Tallis, enregistré de manière différente, peut-être avoir une possibilité d'immersion pour les gens, puisque maintenant on peut écouter aussi sur son ordinateur, en tournant avec le casque peut-être, et que le son change. Peut-être plus de projets originaux, mais l'enregistrement de la musique ne va pas s'arrêter. Mais attendez-vous à des projets qui sortent des sentiers battus.
Bien, je vois qu'il y a... les projets ne manquent pas, effectivement. Nous devons conclure cet entretien sur ces augures. Merci infiniment, Lionel Meunier, pour cette
Merci beaucoup.
discussion et ces échanges passionnants. L'ensemble Vox Luminis donne donc ce soir à 21h la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach à la basilique Saint-Sauveur pour le concert d'ouverture du 20e festival de Rocamadour. Il fallait une œuvre immense pour lancer cette édition anniversaire. S'il reste quelques places, ce qui n'est pas sûr, je signale que la billetterie est en ligne à l'adresse www.rocamadourfestival.com. Merci à nos auditeurs d'avoir été à l'écoute de cette émission. Rendez-vous demain pour une nouvelle interview. Je m'entretiendrai cette fois-ci avec le pianiste Guillaume Bellhomme. Bon après-midi à tous sur Radio Présence.
Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine Éric Dupris.